Eschatologie et prophétie, une série d'émissions proposées par le Père François Dominique de la communauté des Capucins de Bastia.
Bonjour à tous, chers auditeurs, heureux de nous retrouver pour notre émission Eschatologie et prophétie sur les fins dernières. À travers ce livre du Père Philippe-Marie Margelidon, aux éditions Artege. Je rappelle donc que le père Philippe-Marie Margelidon est un père dominicain, professeur de théologie de la faculté théologique de l'Institut catholique de Toulouse. Nous sommes arrivés au deuxième chapitre donc, de son livre, intitulé donc, « La mort et le salut ». Nous savons que tous, bien, nous devrons aussi passer par la mort pour entrer dans la gloire. Comme le Christ est mort et ressuscité, nous aussi, à son image, eh bien, nous sommes appelés aussi à vivre notre Pâques, à vivre ce passage, et donc aussi ressusciter avec le Christ, c'est aussi accepter de mourir avec le Christ. Et la réalité donc de la mort, nous la vivons dans notre corps, puisque c'est par l'aspect matériel de notre être, le corps, que nous expérimentons la mort. Notre âme, elle, est immortelle. Et le moment de la mort, comme on le dit, c'est un moment, on pourrait dire, métaphysique. C'est la séparation de l'âme et du corps, et où le cadavre, eh bien, est voué aussi à la corruption. Poussière, tu es poussière, et tu retourneras à la poussière, comme on dit aussi habituellement, même au début du carême, pour nous rappeler justement ce caractère de finitude de notre corps et la dimension d'éternité aussi de notre âme. Quand on parle de la mort donc humaine, il y a donc ces deux réalités à tenir compte. La réalité, bien oui, de cette séparation de l'âme et du corps, de ce corps corruptible et de cette âme incorruptible, immortelle, spirituelle. Mourir, c'est donc devenir cadavre, puis poussière. Pourtant, ce qui meurt n'est pas tout l'homme, comme on dit. Il naît, il meurt, mais son âme spirituelle est immortelle. Après la mort, l'âme subsiste jusqu'au moment où elle sera de nouveau unie à son corps à la résurrection. Nous avons vu aussi dans les autres émissions précédentes que nous sommes appelés à la résurrection des corps. C'est un dogme de foi, donc, c'est-à-dire ça fait partie des vérités à croire pour que nous soyons vraiment dans la foi catholique. Et nous le professons à chaque fois que nous récitons le credo « Je crois en la résurrection de la chair ». La distinction traditionnelle de l'âme et du corps s'impose au regard de la raison et de la foi. Pour parler de la mort et du salut, il convient d'avoir quelques éléments, on pourrait dire de métaphysique ou d'anthropologie philosophique en mémoire. Ces quelques rappels ne seront pas inutiles. Aujourd'hui, c'est vrai que nous ne savons plus trop parler de cette réalité spirituelle de l'âme, ni non plus aussi bien cette union substantielle de l'âme et du corps, de l'immortalité de l'âme, etc. Donc, il convient aussi de revenir sur ces éléments qui sont essentiels pour comprendre la spécificité aussi de notre être comme personne humaine. L'âme, donc cette partie spirituelle, est le principe du vivant, le principe de l'homme, le principe de vie de l'homme, ce qui fait que l'homme est homme. Et donc dans la matière, Dieu insuffle une âme, c'est-à-dire il crée l'âme directement dans le corps. Alors à quel moment, ça c'est la grande question que la philosophie ne peut pas définir exactement. Tout ce qu'on sait donc, c'est qu'à partir du moment où l'embryon est constitué, eh bien, on peut dire que le principe de vie est déjà en acte et donc l'âme est déjà créée. Alors certains ont pu dire que c'est dès l'acte créateur, dès l'acte de la conception, eh bien, il y a aussi la création de l'âme et, donc, qui est directement créée par Dieu. Ce n'est pas les parents qui nous donnent notre âme, mais bien ce principe de vie spirituelle qui vient de Dieu. L'âme, comme on dit, donc, est principe de vie de la personne humaine, c'est-à-dire qu'elle va aussi avoir des facultés propres qui sont l'intelligence et la volonté. L'âme est, donc, nous permet justement de pouvoir être créé justement à l'image et à ressemblance de Dieu comme pur esprit. L'âme est un esprit. Et donc elle permet aussi donc, d'entrer dans cette relation à travers les deux facultés propres de l'âme qui est l'intelligence et la volonté. L'intelligence qui permet de chercher la vérité, la volonté qui s'oriente aussi vers le bien. Donc, cette vie de l'âme, eh bien, une fois qu'elle est séparée du corps, continue aussi à s'exercer. L'âme continue d'exister, donc elle continue aussi à exercer ses facultés donc de recherche de vérité et, de, et elle tend aussi vers le bien. Donc, parce qu'elle est créée par Dieu et pour Dieu. Évidemment qu'étant dans la béatitude de Dieu, il n'y a plus de vérité à chercher puisqu'elle contemple la face de Dieu, la vérité même, et puis en même temps, elle est unie donc au bien suprême, qui est le bien de Dieu. Donc, elle est pleinement comblée. Et eh bien, cette glorification de l'âme, comme on appelle, c'est ce qu'on appelle aussi la vie du ciel, la béatitude, la vision de Dieu, comme on l'a dit, le ciel, c'est voir Dieu face à face. Notre âme, donc, cette fois, donc, est devant son objet, c'est-à-dire devant Dieu lui-même qui est, voilà, et donc elle est complètement comblée de tous ses désirs. Et cet état de béatitude de l'âme appelle aussi la résurrection du corps. Saint Thomas n'hésite pas à faire de la résurrection une vérité de foi conforme à la raison, c'est-à-dire hautement convenante pour la raison elle-même. Il va dire que bien, c'est une raison de convenance qu'il y ait la résurrection de la chair. Parce que l'âme, comme on l'a dit, est unie substantiellement au corps. Et donc pour créer la personne humaine, il faut qu'il y ait un âme et un corps. Une âme et un corps. Et donc l'âme ne peut pas rester séparée. Donc il y aurait une imperfection quelque part. Il faut qu'il y ait une réunification, on pourrait dire, de l'âme et du corps. Et c'est donc ce que Dieu réalisera au moment de la résurrection des corps. Je vous rappelle que ce dogme de foi nous est donné aussi à travers un signe d'un autre dogme qui est celui de l'Assomption de la très sainte Vierge Marie, qui elle est déjà dans la gloire du ciel avec son corps. Son corps participe à la gloire de Dieu et son âme est unie à son corps glorieux. Alors on pourrait dire qu'il y a aussi le corps glorieux du Christ, bien sûr, qui est au ciel, mais comme créature humaine, eh bien, la Vierge Marie nous précède tous et elle nous montre ainsi voilà la destinée à laquelle nous sommes appelés, voués aussi par Dieu. Pour nous, eh bien, cela se réalisera uniquement à la fin des temps, quand le Christ reviendra juger les vivants et les morts, et donc tous ressusciteront, comme nous dit l'Écriture, ceux qui ont fait le bien pour entrer dans la gloire de Dieu, et ceux qui auront fait le mal aussi eh bien, pour suivre, la destinée de la damnation, c'est-à-dire de la séparation définitive avec Dieu, puisque, en l'occurrence, eh bien, ça aurait été leur choix, quelque part. Donc, la résurrection est une réalité qui convient d'affirmer, puisque notre âme est immortelle et qu'elle est faite pour un corps. Et c'est donc cette raison de convenance que saint Thomas va avancer pour parler de la résurrection des corps. Certes, donc cela ne peut pas être prouvé puisque c'est une vérité de foi qui ne fait, qui ne peut faire l'objet d'une démonstration rationnelle. C'est vraiment, là, quand on parle de la résurrection des corps à la fin des temps, etc., et c'est une réalité aussi, bien sûr, de foi. La résurrection est convenante en raison du statut et de la dignité ontologique de l'âme, de sa perfection et de l'excellence de ses opérations, dont le corps est le support et l'instrument approprié. Alors, la parole de Dieu nous parle aussi de la mort comme étant la conséquence du péché originel. La mort est entrée dans le monde par le péché originel, le péché d'Adam, comme le dit saint Paul aussi dans la lettre aux Romains. La mort est l'horizon le plus évident de la vie humaine. Nous naissons pour mourir un jour. Et saint Augustin disait que naître, c'est déjà commencer à mourir. Bon, ça peut paraître une vision un peu terne, mais voilà, c'est profondément vrai dans le sens où, eh bien, voilà, dès que nous naissons, eh bien, nous sommes insérés dans le temps qui comprend un devenir, donc une croissance, une décroissance. Tous les êtres matériels, et nous en faisons partie aussi, naissent et meurent. C'est la loi aussi, bien voilà, de la matière qui est corruptible. Même la matière la plus dure qui soit, comme la pierre, a un certain devenir. La pierre n'est pas éternelle, elle se corrompt. À force aussi de subir les intempéries, à force de passer bien les années, elle finit par se corrompre. Donc on voit que même la matière, les matières les plus résistantes, sont aussi voilà, vouées aussi à cette même loi de la corruption. Il y a dans la matière une instabilité essentielle, quelque chose qui échappe à ses formes successives et qui révèle de sa potentialité cette puissance permanente à devenir autre chose. L'équilibre du vivant dépend de beaucoup de causes diverses, internes et externes, pour ne pas en venir à se rompre un jour. La vie biologique, dans son apparition et son développement, n'échappe pas à la loi universelle de la dégradation générale et de la caducité. Toute mort est la condition d'une transformation qui est la loi même de la vie et de la matière, la condition de sa persistance et de ses renouvellements. Nous le voyons, si nous observons les mouvements de la nature, eh bien que, quelque part, même la mort aussi, d'une certaine manière, on pourrait dire, engendre la vie. Par exemple, dans la culture, le grain de blé qui meurt en terre et qui porte du fruit, pour que d'autres renaissent. Alors le corps humain, bien sûr, n'est pas la matière de notre corps ne se régénère pas par elle-même, puisque nous sommes voués à la décomposition, même à la poussière. Tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Mais donc, notre chair, faite de chair, nos os, tout, redeviendront de la cendre, de la poussière, et donc vivront aussi une transformation. Et nous voyons donc que l'homme, dans le cas de l'homme, l'expérience de la mort ne saurait se réduire à un fait neutre, mesurable et quantifiable, comme on le fait pour des choses, des autres réalités. La mort de l'homme, dans sa banalité apparente, ne peut se résoudre à des paramètres matériels, parce qu'il est aussi uni à un esprit, une réalité matérielle animée par une âme spirituelle et immortelle. Il ne faut pas définir la mort humaine, répondre à la question de la nature de la mort d'un être humain, c'est-à-dire d'une personne humaine, à l'aide de critères opératoires purement cliniques. La mort est une question métaphysique et religieuse. Il est dès lors arbitraire et réducteur de répondre à la question du moment de la mort en ces mêmes termes. En réalité, une analyse aussi précise soit-elle des critères de la mort ne permet pas de définir et de connaître la nature de celle-ci. laquelle échappe à la fois à la technique et à une vérification empirique. La réflexion métaphysique sur l'âme spirituelle et immortelle dans son rapport à la matière permet de définir l'essence de la vie humaine et donc de la mort comme séparation de l'âme et du corps. Le signe sensible du moment de la mort est cette cessation de l'activité cérébrale. Plus exactement, la mort d'une personne humaine peut se définir ainsi. Il y a mort d'une personne en ce monde lorsqu'il y a destruction de la capacité de l'organisme humain à fonctionner. Donc les premières traces aussi de corruptibilité. Comme un tout et à perpétuer ce processus d'intégrité. L'incapacité à fonctionner de l'une ou de l'autre des parties de cet organisme ne saurait suffire. Autrement dit, donc, l'arrêt du cœur ne suffit pas pour définir la mort. On constate vraiment la mort quand eh bien, il y a les premières traces de la corruptibilité qui... Telle est donc la mort humaine et personnelle observable. Or, quelque chose en l'homme qui meurt repousse cette, on pourrait dire, cette désintégration, ce qu'on appelle justement l'âme. Il y a en nous une soif d'éternité. On ne peut pas se résigner devant cette réalité de la mort. En effet, déjà, tout ce qui existe tend à persévérer dans l'être, dans l'existence. Il y a comme un principe de résistance, une force d'immortalité, au moins celle de l'espèce et non de l'individu, celle par laquelle il se produit selon la même structure. On a souvent remarqué que dans la puissance régénératrice, dans l'instinct sexuel, cette protestation du vivant contre la mort est déjà une certaine victoire sur elle. L'homme antique et l'homme dit primitif ont spontanément perçu quelque chose de divin et de religieux dans cette puissance de donner la vie. Cette persistance, cette volonté de persister, n'est pas encore celle de l'individu. Celle-ci meurt, cesse d'exister en tant qu'individu. Il y a des animaux qui sont traversés par une certaine angoisse lorsque la mort vient. Dans l'animal commence la conscience spontanée aussi d'exister. Mais avec l'homme commence la conscience réflexive d'exister. Et donc l'homme peut réfléchir sur la réalité de la mort, sur sa mort. Qu'est-ce que la mort? Et qu'est-ce qu'il y a surtout après la mort? Donc toute cette partie réflexive de la mort est propre à l'homme. L'animal, bien sûr, n'entre pas dans une réflexion pour savoir reconnaître son cycle de vie et encore moins pour savoir s'il va subsister ou pas. Alors que l'homme, lui, eh bien, dans sa réflexion, il va chercher un sens aussi même à la mort. Ce qui va faire naître aussi dans les courants religieux qu'on appelle la religion naturelle, celle qui n'est pas fondée sur la révélation de la Bible ou de Dieu qui se révèle, mais seulement de l'instinct de l'homme qui se tourne vers Dieu, des conceptions aussi de cette immortalité inscrite dans le cœur de l'homme. Alors certains vont la traduire aussi par des formes de persistance comme la réincarnation par exemple. C'est tout à fait l'image de cette vie qui doit continuer, qui ne peut pas avoir un terme. Et puis, en même temps, il y a aussi une notion de pureté, de la pureté de l'âme. Quand on parle de l'âme, déjà même du point de vue philosophique, cette âme, elle est vouée aussi à refléter la pureté, le bonheur, le bien, la vérité, etc. Et donc... Même dans les autres religions qui parlent aussi de ces réincarnations, eh bien nous voyons une recherche aussi de pureté. Alors, aujourd'hui, nous récupérons malheureusement beaucoup ces termes de réincarnation, mais c'est complètement aussi détourné du sens profond, même philosophique, véhiculé par ces religions. Quand on parle de la réincarnation en Inde, par exemple, dans l'hindouisme ou le bouddhisme, ou le taoïsme, ou toutes ces autres religions antécédentes, même au christianisme, eh bien, nous voyons que cette réalité de la réincarnation englobe ce chemin de perfection de l'âme. Et le but n'est pas de se réincarner indéfiniment. Le but, c'est d'arriver aussi à une perfection de l'âme qui permet à ce que l'âme soit unie spirituellement à la béatitude, comme on l'appelle. Mais pour nous, on sait que tout ça n'est pas quelque chose de vague. Nous pouvons mettre des mots, nous pouvons mettre des noms, puisque cette béatitude, nous est donnée par Dieu lui-même. Notre âme est créée par Dieu, elle est créée pour Dieu, et elle revient aussi à Dieu. Et donc, si Dieu est le créateur de notre âme, et que l'âme est principe de vie d'un corps, pour former une personne humaine, eh bien, l'âme ne peut être unique qu'à un seul corps. Il ne peut pas y avoir de réincarnation dans un autre corps ou sous une autre forme. L'âme est nécessairement unie à la forme de son corps, qui lui a été, et la matière du corps qu'il a habité. Donc, mais nous voyons que, curieusement, même l'homme, même sans l'aide de la révélation, s'est posé toutes ces questions par rapport à la mort. Il ne peut s'arrêter seulement à ce constat de sa propre finitude, de sa mort, de la corruption. Il y a, encore une fois, cet instinct de survie qui est inscrit dans le profond du cœur de l'homme, de tout homme, quel qu'il soit. Or, la révélation chrétienne va nous apporter aussi la véritable réponse quand à ce qui touche le profond de l'être humain, de la personne humaine, et notre destinée aussi éternelle. Et donc, nous voyons que cet état aussi de ce corps aussi qui passe aussi par la corruption, eh bien, elle nous est décrite aussi comme une conséquence du péché originel, que les théologiens appellent l'état de justice originelle. Dans l'état de justice originelle, l'homme ne devait pas connaître la corruption. Pour saint Thomas d'Aquin, cet état primitif originel, donc, consistait en un ensemble de dons gratuits conférés à la nature humaine. Il constituait pour l'humanité une dotation de nature qui plaçait cette nature humaine en un état privilégié. Il aurait été transmis avec elle non comme procédant de la nature, mais comme l'accompagnant toujours. Cet état d'harmonie et d'intégrité comprenait quatre sortes de soumission. Soumission de l'âme à Dieu, de laquelle tout le reste dépendait, puisque, selon saint Thomas, l'homme avait été créé dans la grâce. Soumission des puissances inférieures à l'âme. Soumission du corps à l'âme, de telle manière que, quoique naturellement mortel, l'homme possède l'immortalité. Cette harmonie interne se complétait par la soumission à l'homme de toute la nature matérielle, tous les êtres créés corporels, tous les animaux étaient soumis aussi à l'homme, selon la parole de la Genèse. Quand au moment de la création, Dieu dit à l'homme « soumettez la terre ». Le péché originel a mis fin à cet état, et l'homme est devenu alors mortel. Précisons que ce premier état correspondait à une première économie de grâce. Sous ce régime de grâce et de sainteté, l'homme en Adam bénéficiait de ce que la théologie postérieure à saint Thomas a appelé les dons préternaturels, pour désigner des perfections surajoutées qui ne sont pas formellement surnaturelles, mais qui accompagne comme de droit le don de la grâce sanctifiante dans l'état de justice originelle. Et ces dons, qu'on peut dire aussi, appeler ces dons d'intégrité, ne sont rien d'autre que l'intégrité morale du premier Adam, l'exception de la concupiscence qui incline au péché et aussi le don d'immortalité qui est l'exemption de la mort corporelle. Et enfin, le don de l'impassibilité qui est l'exemption de toute souffrance qui lui-même dépend du don de l'immortalité corporelle. Tout cela était aussi lié au don de science, qui est la connaissance infuse des vérités naturelles et surnaturelles. Ces dons, donc préternaturels, ont été perdus par le péché d'Adam. Ce péché commis par Adam a introduit un mauvais état de la nature humaine. Le péché transmis par la voie de la génération est en nous privation de la grâce et de la justice originelle. Elle constitue pour la nature humaine une mauvaise disposition, une disposition qu'on pourrait dire désordonnée. Cette harmonie originelle est désormais brisée. Et au lieu d'une harmonie, eh bien, il règne aussi en nous une anarchie, anarchie des passions, anarchie aussi voilà, des forces qui luttent contre... Voilà, contre le bien, contre la vérité, qui est pourtant vers laquelle nous tendons. Il y a une certaine confusion aussi, dans l'esprit humain, pour s'orienter vers le bien. Tout ça sont des conséquences donc du péché originel. Du fait de son rapport avec le premier homme, par la motion de la génération, qui fait que chaque homme est comme un membre du premier, cette disposition prend valeur de faute et mérite reproche. Cette disposition est appelée concupiscence du fait que l'absence de la soumission à Dieu en laquelle culminait la justice originelle laisse libre cours également chez tous et quelles que soient les différences personnelles de constitution à l'attrait désordonné de chaque puissance vers un bien périssable à ce qu'on appelle la convoitise en toute sa généralité. Le péché originel se trouve dans l'essence de l'âme et non dans le corps qui n'est pas susceptible au péché, puis dans les puissances et spécialement dans la volonté par laquelle le péché originel incline au péché actuel. Le péché originel est un habitus entitatif en ce qui qualifie l'âme avant qu'elle pose des choix libres. Il est une disposition habituelle qui précède les actes et qui lui correspondent, ou encore un habitus corrompu qui l'affecte négativement. Alors voilà, toutes ces notions de doctrine peuvent nous sembler peut-être un petit peu compliquées, mais en réalité, ce n'est pas si compliqué que ça. Ça nous aide justement à comprendre, surtout, ce qui se passe en nous, pourquoi nous parlons de péché, pourquoi nous parlons de la mort du corps, de cette séparation de l'âme et du corps, pourquoi nous parlons de l'immortalité de l'âme, etc. C'est important pour nous aujourd'hui, et de tout temps d'ailleurs, mais aujourd'hui parce que nous règne encore une fois une confusion. Et nous voyons bien souvent, même parmi nos frères et sœurs chrétiens, des personnes qui vont chercher des réponses ou qui trouvent des réponses ailleurs que ce que nous transmet aussi l'Église et la sagesse de l'Église, qui, encore une fois, se base aussi sur la sagesse même à la fois philosophique, théologique, mystique, de la tradition, de tout ce qui a été aussi reçu par la tradition au cours de tous les siècles de la révélation jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà, il y a tout un patrimoine aussi de réflexion sur l'homme qui est propre aussi à la théologie de l'Église, qu'il est bon de découvrir en tout cas et d'approfondir. Ça nous aide aussi à mieux encore une fois comprendre les réalités à lesquelles aussi nous sommes appelés. Voilà, chers auditeurs, eh bien, nous continuerons la semaine prochaine notre émission, en regardant aussi la réponse de Dieu devant cette réalité du péché qui est de nous avoir donné le don de la grâce sanctifiante, de nous avoir donné le don de la grâce par son Fils Jésus, mort et ressuscité pour nous. Il nous donne aussi la vie. Il nous permet de retrouver, non pas l'état de justice originel, mais de retrouver la communion avec Dieu. Tout cela, dans la grâce et aussi dans la réalité du combat de nos vies, mais la mort n'a pas le dernier mot, c'est la vie qui triomphe. À la semaine prochaine, et donc bonne continuation vous tous sur les ondes de votre radio chrétienne.
Eschatologie et prophétie, une série d'émissions proposées par le Père François-Dominique de la communauté des Capucins de Bastia.